BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Guez.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up santé. La myopie est le trouble de la vision le plus répandu puisqu'il touche près d'un tiers de la population mondiale et qu'il l'atteindra peut-être la moitié en 2050. Et les enfants aussi sont touchés de plus en plus tôt. Quant à la presbytie, vous êtes 32 millions de Français à en être atteints. Heureusement, les immenses progrès en ophtalmologie ces dernières années permettent déjà de prédire, prévenir, diagnostiquer, traiter, voire bloquer la progression de certaines affections. C'est le sujet aujourd'hui de ce check-up santé avec quatre invités prestigieux et incontournables dans ce domaine. Jean-Michel Lambert, président de Oya Vision Care, le professeur Amine Tadayoni, chef de service de d'ophtalmologie de l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild et directeur de l'Institut français de la myopie, Aurore Muselier, présidente de la Société française des ophtalmologistes adaptateurs de lentilles de contact, et Mathieu Moïse, opticien et président du groupe Moïse. Check-up santé, c'est parti. Aurore Muselier, bonjour.
Bonjour.
Jean-Michel Lambert, bonjour.
Bonjour.
Mathieu Moïse, bonjour.
Bonjour.
Amine Tadayoni, bonjour.
Bonjour, merci.
Jean-Michel, vous dirigez Oya, on dit Vision Care ou Vision Care?
Vision Care, un peu
Vision Care,
là.
Quand même. Que vous dirigez, donc vous accompagnez donc les professionnels de la vision, ophtalmologistes, opticiens, chercheurs. De quelle façon exactement?
Absolument, c'est la vocation première d'Oya Vision Care, c'est de servir les professionnels de santé dans la vision, pas seulement, parce que le groupe fait aussi des endoscopes, par exemple, mais principalement dans la vision. Alors, en leur fournissant, on va dire, des matériaux qui leur permettent de traiter, parce que vous appuyez des amyotropies classiques, la myopie ou la presbytie, ça avec des verres ophtalmiques, mais aussi avec des implants, quand il s'agit de la cataracte, par exemple, ou plus récemment, avec l'innovation des verres de frénation, dont on va reparler sûrement.
Alors, je disais en introduction, la myopie, c'est une véritable pandémie.
Oui, c'est comme vous l'évoquiez, il y a des études prospectives qui montrent que voilà, on est sur à peu près un tiers de la population mondiale, avec des moyennes très différentes suivant les continents, parce qu'on voit qu'en Asie, la prévalence est déjà au-delà de 80%, et qu'on est destiné avant 2050, parce que je pense que même les études prospectives, elles n'ont pas intégré tous les systèmes d'utilisation de nos dispositifs téléphoniques et autres, qui surstimulent en vision de près, on va atteindre 50% de la population mondiale myope. Donc oui, c'est une pandémie lente, silencieuse, mais qui
est aujourd'hui... Et un sacré marché, donc.
Et donc une opportunité aussi de mieux le servir, et puis de voir comment on peut mieux traiter. On était plutôt sur un verre passif, et là on rentre dans des aires un peu nouvelles.
On va justement en reparler. Donc il y a ceux qui voient mal de loin, et il y a ceux aussi, c'est peut-être physiologique, qui voient mal de près, c'est la presbytie.
Absolument.
Là aussi, ça touche beaucoup de monde.
Bah oui, c'est près de 30 millions de Français, par exemple. Et puis, comme on a une population qui est quand même un peu plus vieillissante en France, évidemment, on atteint presque 100% d'équipement au-delà de 60-70 ans.
Ramin Tayoni, je disais, donc, vous êtes chef de service du célèbre hôpital Fondation Rothschild. Vous êtes spécialiste des maladies rétiniennes, de la chirurgie rétino-vitréenne et de l'imagerie de la rétine. Vous avez des fonctions aussi européennes ? Avec Euretina, c'est bien ça?
Exactement, c'est la société européenne de rétine.
Voilà, on va parler après de ce que vous venez d'ouvrir. Donc, il y a bien sûr des maladies diverses et variées en ophtalmologie, mais les plus fréquentes sont la myopie et la presbytie.
Alors, clairement, oui. Alors, la presbytie parce que l'âge et la myopie parce que la civilisation.
Oui, donc cette myopie donc, est d'origine plutôt génétique?
Non.
Mais aggravée par certaines choses ou non?
Non, alors possiblement certaines personnes sont totalement protégées et un petit nombre vont être myopes, on sait à peu près 8%, mais pour tout le reste, ça va dépendre des conditions de vie.
D'accord, mais d'avoir deux parents myopes par exemple, non?
Ça augmente les risques d'être myopes.
D'accord. Et donc ça, c'est la myopie? Qui est donc une maladie, qui n'est pas physiologique comme la
presbytie. Qui n'est pas physiologique, qui peut prédisposer à des complications, donc on doit le considérer comme une maladie.
Alors, justement, donc, cette myopie, donc, elle est aggravée par certains facteurs, lesquels?
Alors, en fait, l'utilisation de la vision de près aggrave, et si on est à l'extérieur, ça protège. Donc, en gros, c'est les deux facteurs les plus puissants qu'on connaisse aujourd'hui.
Oui, ça veut dire que, dès l'enfance déjà, donc, on a du mal, peut-être, on est trop sur les écrans, on n'est pas assez à la lumière naturelle, c'est ça?
Absolument. Le fait qu'en fait, on demande aux enfants de travailler de plus en plus, un élément est un élément scolaire, et l'autre, c'est que, dans l'ancien temps, ceux qui ne lisaient pas des livres jouent au football dehors. Aujourd'hui, ils jouent au football, mais sur leur écran. Donc, ils sont aussi en vision de près. Donc, tout le monde est en vision de près tout le temps. Ils ne sont plus dehors et donc, ils deviennent de plus en plus myopes.
Alors, Aurore Musiolier, donc vous êtes ophtalmologiste à Paris, vous êtes présidente de la SFOALC, sa société française des ophtalmologies adaptateurs de lentilles de contact.
Tout à fait.
Ouf, je l'ai dit.
Exactement.
Donc, vous travaillez aussi beaucoup sur les enfants. Donc, cette myopie, elle va démarrer très tôt.
Alors, elle peut démarrer tôt, ouais. Et plus elle démarre tôt, plus on sait qu'on a un risque qu'elle soit évolutive, et donc il faut la prendre en charge et essayer de la freiner au maximum. Et aujourd'hui, c'est exceptionnel, puisque il y a 15 ans, 20 ans, par exemple, moi, quand j'étais enfant, on n'a pas pu freiner ma myopie, donc ma myopie, elle a évolué. Mais aujourd'hui, on a des solutions pour pouvoir la freiner, donc c'est quelque chose dont il faut faire profiter nos enfants myopes.
Donc, cette freination, donc, elle est possible, et même d'ailleurs plus utile chez l'enfant, c'est ça, cette freination?
Tout à fait, elle s'envisage chez les enfants qui ont une myopie, et alors tous les enfants n'ont pas une myopie qui évolue, hein, mais ceux qui ont une myopie évolutive, on a différentes solutions qu'on peut mettre en place pour essayer de ralentir la progression de la myopie. Donc la myopie, c'est pas bien voir de loin, d'accord, mais c'est aussi autre chose, c'est l'œil qui s'allonge, et on l'a dit avec Ramine, hein, quand l'œil s'allonge, il y a des complications qui peuvent arriver à l'âge adulte, et donc c'est ça qu'on va essayer de faire, c'est de freiner l'allongement de l'œil.
Justement, Ramine Tadayoni, donc vous dites que donc l'œil qui s'allonge, finalement, là, ça abîme la rétine.
Alors, entre autres, en fait, toutes les complications augmentent. Il y a plus de cataractes, il y a cataractes plus tôt, il y a plus de glaucome par rapport aux autres. En plus, le diagnostic est plus difficile. Il y a plus de maladies rétiniennes comme le décollement de rétine. Et au-delà d'un certain degré de myopie, apparaissent ces complications qui n'existent pas chez les autres. Donc, ce qu'on appelle les maculopathies myopiques, qui sont des maladies particulières.
Alors Jean-Michel Lambert, donc vous présidez donc Oya Vision Care, donc justement on parlait de freination de la myopie, donc vous avez lancé donc un procédé qui est relativement révolutionnaire.
Oui, on a travaillé en collaboration avec l'école d'optométrie de Hong Kong, qui est extrêmement réputée, parce que ça fait plus de 30 ans qu'elle travaille sur le sujet de la recherche de la myopie. Et pour faire simple...
On est myope, non, à Hong Kong?
Alors, 90% oui. De la Asie, population, oui. Ouais. Taïwan, Singapour, Hong Kong... Si on élargit toute l'Asie, on voit que la prévalence est déjà très très élevée. Et donc c'était naturel que, quelque part, ils cherchent des solutions en urgence pour eux, puisqu'ils avaient déjà atteint un niveau important. Donc ce qu'ils ont mis au point à Hong Kong, c'est un système qui permettait de comprendre que la longueur axiale, et je parle sous le contrôle des spécialistes dans la salle, mais induisait une prise de dioptrie, et si elle n'était pas particulièrement contrôlée au moment de l'acquisition, c'est-à-dire pendant l'enfance. Autrement dit, une croissance naturelle de l'œil dans sa taille, c'est normal. Si par contre cette croissance est exagérée, elle va induire de la prise de dioptrie excédentaire en termes de myopie. Donc faisant découverte de ce principe, il a essayé de demander à un verrier, ce que nous avons voulu faire avec lui, de voir si on était capable de faire dans une zone centrale de répondre à le besoin de myopie, mais dans une zone périphérique de contrôler le développement de la longueur axiale de l'œil, ce qu'on a fait avec le lancement de MyoSmart.
Et ça marche?
Eh bien oui, on est plutôt heureux. Alors les études primaires ont confirmé deux choses. D'abord qu'on avait 60% d'impact par rapport à un groupe contrôle, qui était envers unifocaux, c'est-à-dire qu'on réduisait la prise de dioptrie de 60% sur 24 mois. On a fait une étude plus longue sur 6 ans qui nous ont permis de confondre aussi la question qui se posait tout à fait naturellement, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura un effet rebond? C'est-à-dire que si j'arrête de porter ces verres, est-ce que je vais récupérer l'intégralité de la longueur axiale que j'avais contrôlée? Non, on a pu rester dans une courbe de croissance de l'œil qui est celle d'un amétrope, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de correction. Et puis on a pu même ces temps-ci confirmer, puisqu'on a lancé le verre maintenant il y a 3 ans en France, qu'on a déjà 7 enfants sur 10 qui sont stables après un an, et peut-être 50%, il faudra le confirmer dans les études cliniques qui viennent, 50% après 3 ans. Donc on est vraiment en train d'impacter l'acquisition de cette dioptrie, et donc d'éviter ce qu'on appelle les myopies fortes au-delà de moins 6, qui elles vraiment ouvrent toutes les complications et les comorbidités dont parlait le professeur Tadayoni.
Donc une véritable révolution. Donc dans le monde de la vision, il y a évidemment différents professionnels de santé qui sont complémentaires les uns les autres, et parmi ces professionnels de santé, il y a les opticiens. Mathieu Moïse, donc l'optique chez vous, c'est de père en fils?
Bah, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que je suis la 4e génération d'opticiens dans ma famille. Donc on a connu plein d'évolutions techniques. C'est sûr qu'aujourd'hui, je ne fais plus le même métier que mon père, et il aurait pu dire la même chose de son père et de mon grand-père.
Et cette évolution, elle était exponentielle ces 10 dernières années ou pas? Non.
Non, il y a eu, je dirais qu'avec le verre de freination, là, on est vraiment sur une véritable évolution. Je dirais que pour moi, la véritable dernière évolution avant le verre de freination, c'était le verre progressif. Sauf que maintenant, ça fait vraiment...
Ça fait 50 ans.
Voilà, oui, ça fait pas mal d'années. Mais après, dans un verre progressif, comme dans un verre de freination, il y a énormément de technologies qui évoluent en permanence.
Donc évidemment, vous êtes complémentaire du ophtalmo. Vous faites beaucoup de prévention, c'est ça, en santé visuelle. De quelle façon?
Alors, je dirais, de notre plein gré... Et d'une manière, je dirais, spontanée. Parce que c'est vrai que le métier d'opticien, c'est un métier de proximité. On couvre l'intégralité du territoire français. En France, il y a plus de 12 000 magasins d'optique. Donc c'est vrai que quelquefois, quand une famille, quelqu'un a une question sur sa vision, il va rentrer chez l'opticien qui est le professionnel le plus proche de chez lui. Et après, donc souvent, on essaye de rediriger chez un... entre autres dans les cabinets d'ophtalmologie, parce que nous ne sommes pas médecins, nous sommes des paramédicaux. Nous, on n'émet pas de diagnostic. On est là pour accompagner. Et c'est vrai qu'en France, quelquefois, dans certaines régions, il y a un problème de fléchage. Les gens ne savent pas comment accéder aux soins ophtalmologiques. Et on nous sollicite, et donc on essaie de rediriger au mieux.
Ramin Tadayoni, vous venez d'ouvrir donc justement l'Institut français de la myopie. C'est une association de patients, c'est bien ça?
Alors non, l'Institut français de myopie, c'est un centre de recherche, de soins et d'information pour justement lutter contre la myopie, pour que la myopie en France n'augmente plus ou pas autant, et ainsi que les patients qui sont myopes ne perdent pas la vue. Donc c'est ça l'objectif de l'Institut. Mais par contre, on a aussi certains de nos patients, et on les a aidés autant qu'on pouvait, on crée une association qui s'appelle Myopia, dont l'objectif justement c'est d'avoir aussi d'avoir les patients avec nous. Il faut que tous les acteurs se mettent ensemble pour réussir.
Il y a peu d'associations, non, dans ce domaine de patients?
À ma connaissance, c'est la première association vraie dans ce domaine.
Donc cet institut donc français de la myopie, c'est quoi son ADN et qu'est-ce qu'il va proposer à court terme et moyen terme? Ce qui vient d'ouvrir.
Tout à fait, ça vient d'ouvrir. Donc comme je vous ai dit, il y a plusieurs aspects. Un premier aspect, c'est de prendre en charge les patients myopes en particulier les plus forts. Le diagnostic de leurs complications est complexe, ça nécessite une expertise particulière et souvent les maladies sont ensemble. Donc là, il y a tous les spécialistes pour pouvoir soigner convenablement ces malades. En même temps, on suit des cohortes de patients, on essaie de comprendre l'histoire naturelle de cette maladie et d'avoir tous les éléments pour pouvoir mieux les traiter. Donc c'est un institut de recherche en même temps. Et enfin, heureusement vous nous aidez, on veut faire passer l'information pour que les gens soient dépistés en temps et en heure et que les autorités, le gouvernement nous aident aussi pour que tout se passe au mieux, pour que les prévisions d'augmentation de cécité liée à la myopie ne se fassent pas.
Aurore Muselier, vous êtes spécialiste des lentilles de contact. Quel progrès ces dernières années sur les lentilles de contact?
Alors, on a eu énormément de progrès, et notamment dans le domaine de la freination myopique, puisque maintenant, on peut équiper depuis plusieurs années. Alors, on a des innovations qui sortent régulièrement. Il y en a beaucoup qui sont en cours. Il y en a qui vont sortir prochainement. Et aujourd'hui, on a à notre disposition donc des lentilles rigides. On a des lentilles rigides que l'on peut porter la nuit. Ça s'appelle l'orthokératologie, qui vont permettre, en fait, de remodeler la cornée, de libérer l'enfant de sa correction pendant la journée. Et ça va avoir un effet sur la freination de la myopie grâce à ce remodelage. On a aussi des lentilles rigides, on a des lentilles souples spécifiques avec des dizaines spécifiques aussi pour pouvoir freiner la myopie. Toutes ces méthodes, elles sont à privilégier chez certains enfants. On sélectionne un petit peu les enfants chez qui on va pouvoir le faire, mais c'est des méthodes complémentaires qu'on peut proposer quand, par exemple, des enfants ne veulent plus porter leur verre correcteur. C'est des méthodes que l'on peut faire après un verre correcteur de freination ou en complément, par exemple.
Les enfants mettent facilement des lentilles de contact?
Alors, ils apprennent, et souvent, ils apprennent assez bien.
Ouais, ils finissent par être plus observants, peut-être, que les adultes?
Exactement. Souvent, un adulte qui porte des lentilles, ça devient une routine pour lui. L'enfant, il y a quand même les parents qui sont derrière, et donc, finalement, il y a une vigilance accrue qui est faite. On est très, très, très prudent chez les enfants, et ça se passe généralement bien. On met des matériaux très spécifiques pour les enfants, pour permettre de limiter les complications.
Alors, les lentilles de contact, elles sont évidemment à l'extérieur, hein, elles sont sur la cornée, mais quand c'est à l'intérieur, c'est un implant.
Exactement.
Ouais, et donc ces implants aussi ont des fonctions de plus en plus diverses et variées.
Alors oui, mais c'est des implants qu'on met pour la chirurgie de la cataracte, donc ouais. Ça, il n'y a pas pour freiner la myopie. C'est un autre système optique pour pouvoir corriger et compenser en fait le cristallin quand on l'enlève lors de la chirurgie de la cataracte.
Ramin Tadayoni, donc cette cataracte, elle est vraiment liée à la myopie ou on peut avoir une cataracte sans être myope?
Absolument. La cataracte est avant tout un phénomène naturel avec l'âge. C'est un des cadeaux de l'âge.
Ce n'est pas une maladie évitable.
C'est pas une maladie évitable si on vit suffisamment, mais ça arrive à un âge variable. Mais certains facteurs l'accélèrent, effectivement, la myopie, la prise de cortisone, les traumatismes et autres peuvent accélérer l'apparition de la cataracte.
Sauf qu'avant on enlevait le cristallin, maintenant on met dans quasiment tous les cas des implants.
Oh oui, depuis qu'on a les implants, on met les implants parce que sinon ça nécessite des très grosses lunettes que vous voyez dans les vieux films ou vous entendez les descriptions. Donc aujourd'hui, grâce aux implants, les gens ont des lunettes ordinaires, on va dire.
D'accord. Et ces implants ont des particularités qu'ils n'avaient pas il y a quelque temps, donc de voir de près, de loin, d'améliorer la vision.
Absolument. Il y a de plus en plus de variétés d'implants qui permettent, y compris, d'avoir l'équivalent des verres progressifs dans la lentille. Alors chaque chose a une indication médicale avec avantage et inconvénient. Donc c'est au chirurgien de décider qu'est-ce qui convient au mieux pour chaque patient.
D'accord. Et Jean-Michel Lambert, donc avec OIA Vision Care, donc vous produisez vous aussi des implants?
Absolument. Il y a bien quelques années, on a même vraiment permis d'accompagner les professionnels sur la façon d'injecter l'implant. Et entre autres avec une seringue où l'implant était déjà préchargé dans la seringue, un système de vis, et qui a permis véritablement de simplifier l'opération en elle-même. Et aujourd'hui, il y a près d'un million de cataractes par an, je crois, d'opérations. Donc c'est vraiment un gros volume d'activité et une chirurgie qui est de plus en plus répandue, comme vous l'avez dit, avec des systèmes optiques qui sont de plus en plus performants.
Même Mathieu Moïse, donc, vous formez donc, les gens à porter des lentilles de contact?
Alors, également, compliqué. C'est-à-dire qu'on est le relais. Nous, on est subordonné à l'ordonnance. Dans certains cas, il y a des ophtalmologues qui nous demandent de faire des adaptations en contactologie. Tous les opticiens ne sont pas formés à le faire. Beaucoup le sont quand même. Donc tout à fait, nous réalisons des accompagnements en plus de vendre les lentilles de contact.
D'accord, on n'a pas précisé que vous étiez plutôt installé dans l'est de la France. Vous avez une vingtaine de magasins d'optique.
Et récemment, on a ouvert un magasin dédié à l'enfant, justement par rapport à cette évolution de la myopie. Et on avait envie vraiment d'approfondir tout ce qui est lié à la vision de l'enfant, parce que je crois qu'il y a un véritable enjeu de santé publique derrière.
Ouais. Vous avez préféré rester dans l'est de la France?
Eh oui.
Pas sympa pour les Parisiens quand même. Oui. Et le reste de la France?
Je vais faire valoir mon droit de réserve.
Ouais. Jean-Michel, vous présidez donc le CIDOL. Le CIDOL, c'est le syndicat des industriels et des distributeurs importateurs de l'optique. Oui. Donc vous travaillez de concert avec aussi, les opticiens.
Absolument. Ce qui est intéressant dans le débat qu'on a aujourd'hui, entre autres, c'est qu'on voit bien la limite d'un des acteurs par rapport à l'autre s'il agissait singulièrement et seul. Donc il faut qu'on ait un mouvement de filière, ce qu'on essaie de générer, filière avec tout le parcours de soins nécessaire, de la prévention, de la couverture du territoire, du bon soin, du traitement, du poste, du suivi, parce qu'un enfant avec des lunettes comme ça et un traitement milieu, ça ne servirait pas à grand-chose. Donc en fait, on est en train de se mobiliser tous pour une vraie... comme le disait Mathieu, pour une vraie cause de santé publique.
Mais un syndicat, ça défend
la profession. Et on va regarder ça. Alors, bien sûr, il y a d'autres sujets sur la table. L'environnement, je vais vous en passer des vertes et des pas mûres. Mais ce qui est le plus important, c'est de savoir comment on se mobilise pour vraiment adresser ces 2 millions d'enfants myopes et demain, peut-être 50% de cette population.
D'accord, mais le syndicat, c'est aussi un partenaire pour les institutions, pour les politiques.
Bien sûr, c'est ce qui nous permet justement de discuter parfois de la prise en charge, de discuter de l'intérêt ou pas du 100% santé, de tout un tas de choses qui sont parfois des initiatives politiques. Parfois réussi, parfois moins. Mais en tout cas, on essaie d'avoir notre voix au chapitre quand il s'agit d'intentions sur la santé visuelle. Oui.
Vos rapports avec les ophtalmos sont parfaits?
Alors, inégaux. Parce que,
pourquoi? Non,
alors, je charrie. Quelquefois, c'est difficile quand on est opticien de rentrer en contact avec un ophtalmologue.
Du fait de la pénurie? Du fait de...
Non, je pense la surcharge de travail souvent des cabinets en ophtalmologie. Parce que normalement, aujourd'hui, il y a une loi qui nous autorise de modifier une prescription de lunettes, par exemple, quand la puissance réfractive change. Sauf qu'on a un devoir déontologique d'informer le prescripteur de cette évolution de la correction. D'accord. Et par exemple, dans mes magasins, on a sondé sur nos zones de chalandise tous les cabinets d'ophtalmologie pour savoir quel est le mode de communication que ces cabinets préféraient. on a eu très peu de retours.
D'accord.
Donc, par contre, il y a une inégalité sur le territoire. Les villes sont plutôt bien pourvues en ophtalmologues. Et il y a des zones blanches où, malheureusement, c'est difficile d'adresser un patient à un ophtalmologue. Donc, c'est très inégal.
Aurore Musulé, donc vous êtes installé aussi à Paris, hein, en privé. Donc vous vivez cette pénurie d'ophtalmo?
Non, pas sur la région parisienne. Alors
pas
après, je rebondis un peu sur ce qu'a dit Mathieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des moyens de communication qu'on met en place. Le SNOF a fait un gros travail. Les délais de rendez-vous ont quand même dit. Le syndicat national des ophtalmos, il y a des délais de rendez-vous. Mais c'est vrai que l'inégalité sur le territoire est là. Il y a des choses qui sont en place. C'est vrai que la région parisienne, on est plutôt assez privilégié. Mais voilà, c'est sûr que c'est important pour qu'il y ait une collaboration entre ophtalmo et opticiens, qu'il y ait des moyens de communication. Et je pense que les ophtalmos vont de plus en plus mettre en place ces moyens de communication pour que les patients soient bien pris en charge.
On le voit, ça évolue très vite. Hein. Ouais. Aujourd'hui, il y a des messageries sécurisées, parce qu'à savoir qu'une prescription de lunettes ou de lentilles, c'est de la donnée de santé. Donc on est obligé de la protéger.
Tout à fait.
Ben, je vais poser la même question à vous quatre, hein, pour finir l'émission. Mathieu Moïse, donc, comment vous voyez donc les innovations dans vos magasins?
D'un bon oeil.
Dans les 10 ans. D'un bon oeil, pas mal. J'ai failli la sortir, j'ai pas osé. Ouais.
Non, c'est extraordinaire, parce que nous, on s'engage vraiment dans une démarche de performance visuelle. Et aujourd'hui, pour moi, un patient qui est bien pris en charge, c'est un patient à qui on va amener du confort, de la performance visuelle, de la protection. Et donc, plus la technologie évolue, plus on a de solutions. Donc quand on a une démarche...
Vous dites que dans les 10 ans, ce qui va compter, c'est la prise en charge qui sera améliorée, qui sera facilitée.
Je pense que ça, c'est un axe vraiment de santé publique qui est très important. Mais là, il y a beaucoup d'initiatives qui vont dans ce sens. Et après, si on arrive à doubler ça avec les innovations, je dirais, technologiques, logique, théoriquement, la vision devrait être de mieux en mieux prise en charge. Je tiens quand même juste à rappeler que c'est le sens numéro un, le sens, je dirais, un des sens primordiaux de l'être humain. Donc je pense qu'il mérite tous les égards.
Aurore Muselier, comment voyez-vous l'avenir de l'ophtalmo dans les 10 ans?
Je pense encore...
Est-ce qu'on peut faire de mieux?
On peut encore toujours faire mieux, encore développer encore plus de produits, alors pour la myopie, mais pour d'autres pathologies. On a l'exemple de la myopie avec des verres freinateurs, mais pourquoi pas le dupliquer dans d'autres pathologies pour pouvoir essayer de prévenir les pathologies ophtalmologiques et puis essayer d'augmenter tous les paramètres de ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'il y a des limites dans nos paramètres, et bien essayer d'étendre tous ces paramètres pour qu'on puisse les offrir au plus grand nombre.
Ramine Tadayoni.
Clairement, pour certains, aujourd'hui, c'est la fin du chemin de hier. Pour nous, en chercheurs innovateurs, c'est juste le début du chemin de demain. Et donc, clairement, ça va changer énormément. On travaille sur l'IA, on travaille sur l'image, on travaille sur le moyen de prévention, sur la chirurgie, sur les nouveaux médicaments. Oui. Donc, l'ophtalmologie est un domaine qui est très bien privilégié en termes d'innovation actuellement, parce que c'est important, parce que finalement, la vision est importante. Mm-hmm. Et c'est pour ça que les gens sont de plus en plus myopes, parce qu'ils sollicitent leur...
On parle beaucoup de thérapie génique, elle va s'appliquer beaucoup...
La thérapie génique, c'est un des premiers domaines d'utilisation de la thérapie génique. Donc, effectivement, on peut continuer la liste.
Oui.
Donc, clairement, l'ophtalmologie, dans 5 à 10 ans, ne sera pas celle qui est pratiquée aujourd'hui.
Et est-ce que on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, hein. Est-ce que vous l'utilisez de plus en plus? Est-ce que c'est vraiment une révolution, un progrès pour vous?
La première utilisation de l'intelligence artificielle en médecine, c'est le dépistage de la rétinopathie diabétique qui a été développé dans un autre de mes services à La Ribosière. Et actuellement, le gouvernement finance un grand projet qui s'appelle EVIRED, dans lequel on développe en fait l'intelligence artificielle pour une meilleure prise en charge des diabétiques. Donc clairement, oui, l'IA pour nous, c'est du concret, c'est pour aujourd'hui un peu et demain beaucoup.
Donc à court terme?
Très court terme.
Jean-Michel Lambert, on vous laisse conclure donc justement vos prévisions pour les 10 prochaines années, notamment dans ce que vous faites avec votre entreprise.
Bon, on va continuer à innover, on va essayer de servir tous ces professionnels de santé, aussi bien en prévention, en interception qu'en traitement. Donc, que ce soit avec les marques Oya et Seiko, on cherche la précision de la vision. Donc ça, on va continuer à développer des technologies qui le permettent.
Cette recherche, vous la faites aussi bien en France qu'en Asie?
Ah oui, c'est complètement mondial. On a des centres aux États-Unis de recherche, aussi bien qu'en Asie. Ensuite, on va travailler sur continuer les générations de traitement de la myopie, parce que voilà, on a sorti une première génération. On espère tous qu'on aura une extension et des puissances, et puis des nouveaux concepts technologiques qui viendront encore améliorer la performance. Et puis voilà, à tous les âges de la vie, en fait, il faut une vue la plus appropriée. Donc notre rôle, c'est ça, c'est de servir les professionnels avec de l'innovation et des produits de qualité.
Eh bien, merci à vous quatre. Bravo pour ce que vous faites. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.
Merci.
BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé.